Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les mardis, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'église locale. Et aujourd'hui, nous allons parler des journées nationales exceptionnelles du centre de préparation au mariage qui se tiennent les 11, 12 et 13 novembre prochains. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Sarrazin et Bertrand Sarrazin, tous les deux responsables du centre de préparation au mariage au diocèse de Toulouse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser, nous réexpliquer en quoi consiste le centre de préparation au mariage ?
Alors, on peut dire que c'est, premièrement, on peut dire que c'est un mouvement d'église et à la limite que c'est le curé qui décide de se faire aider par des laïcs pour préparer les jeunes au mariage, pour leur faire découvrir le sacrement de mariage. C'est ça, c'est, l'idéal, c'est ça, c'est que le prêtre décide qu'il peut se faire aider par les animateurs laïcs. Donc ça, c'est alors, et le, comment dirais-je, la richesse du CPM, c'est de regrouper justement, plutôt que ce soit une formation, par, si je puis dire, par le prêtre à un couple, c'est de regrouper des couples pour discuter entre eux de leur expérience, de leur décision de se marier religieusement, et les animateurs les font progresser et leur font découvrir toutes les richesses du sacrement du mariage. Qu'est-ce que tu veux rajouter ?
Non.
Donc on peut dire que c'est rattaché au diocèse ou c'est quelque chose d'indépendant, vraiment ?
Non, c'est rattaché au diocèse.
C'est vraiment rattaché à la paroisse. C'est pas du tout indépendant, c'est vraiment rattaché aux paroisses. Et donc c'est sur toute la France, comme ça, sur tous les ensembles paroissiaux. Bon, à Toulouse, on ne couvre pas toutes les paroisses. Parce qu'il y a d'autres mouvements qui
préparent.
Oui,
aussi.
Il y a Vivré, mais il y a, il y en a d'autres. Mais c'est vraiment une volonté d'être intégré dans la paroisse. Et ça, je crois que c'est très important.
D'un point de vue très concret, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous proposez aux couples qui se préparent au mariage ? Et de ce que j'ai compris, vous proposez aussi des parcours pour les couples après le mariage. C'est bien ça ?
Alors, les parcours après le mariage,
c'est des rencontres.
On leur propose, mais ce n'est pas nous qui décidons, qui les gardons avec nous. On chemine plus avec eux, en fait. On les oriente un peu, on est toujours disponible.
Il y a plein de mouvements pour justement les aider à réfléchir après mariage et à se structurer après leur mariage. Une fois que le mariage est fait, tout est beau, tout est magnifique. Mais très vite, le soufflet peut retomber, si je puis dire. Et c'est très important qu'ils soient accompagnés.
D'entretenir la flamme.
Voilà. Exactement, d'accompagner la flamme.
Oui, notre rôle, c'est vraiment de créer un esprit de confiance et de dialogue avec eux, beaucoup les écouter au départ et puis les amener petit à petit à découvrir le dialogue dans le couple. Et bien sûr, après, on a des temps spirituels, même s'ils n'ont pas été au catéchisme depuis très longtemps, on essaye à travers les textes de l'Évangile. C'est pas nous qui leur faisons une formation, une leçon, si vous voulez. On veut les amener sur ce chemin de foi, mais qu'ils le découvrent vraiment, que ce soit eux qui le découvrent. Quoi. C'est pas, le but n'est pas de les enseigner ou de leur faire de la catéchèse pure. Donc, au moment du sacrement, on fait une demi-journée avec le prêtre qui est mieux formé pour leur parler vraiment du sacrement. Mais nous, il y a les quatre piliers du mariage, la fidélité. Alors là, on approfondit vraiment les quatre piliers. La fidélité, la liberté, l'indissolubilité, la fécondité. Donc à partir de ces quatre piliers, c'est très riche. On a beaucoup d'outils parce que le CPM, depuis 70 ans, je crois à peu près, a des outils, des revues qui permettent aux animateurs en permanence de se former. Et puis d'évoluer avec le temps et c'est un soutien. Et nous, c'est vrai qu'on ne fait jamais tout à fait la même préparation quand on découvre, parce qu'ils proposent des outils qui nous aident concrètement à les faire réfléchir. Voilà.
Mmh. On peut rajouter aussi que chaque groupe est différent dans l'animation.
Oui. En fonction de l'expérience de chacun.
Pas, oui.
En fonction de l'expérience de chacun et en fonction du public aussi. Je veux dire, que ça soit en zone rurale, en zone urbaine ou même entre, par exemple, le nord de Toulouse et le sud de Toulouse, il y a beaucoup de différences. Mmh. Et donc,
on les prend là où ils en sont.
Donc, on les prend, exactement. On les prend où ils en sont. On les accueille là où ils en sont. Alors, quelquefois, il y a des heures parce qu'on nous reproche peut-être de pas faire assez de formation catéchétique, par exemple. Mmh. On pense que nous, notre rôle, c'est vraiment de leur faire découvrir la beauté du sacrement du mariage et essayer de les tirer vers l'Église. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on organise une messe avec eux au milieu de la paroisse pour qu'ils essaient
d'y revenir.
Voilà.
Justement, vous, ça fait de nombreuses années que vous préparez des couples au mariage. Vous avez vu une évolution du regard que les couples portent sur le mariage?
Oui, quand même.
Il n'y a plus le même sens qu'il y a 10, oui, 20, 30
évident.
Ans.
C'est sûr, évident. Nous, je veux dire, quand on s'est marié religieusement, on se posait même pas la question.
Mais là, la richesse, c'est qu'ils se posent des questions. Ils osent dire, parce qu'il y a un climat de confiance... Il y en a un qui ne croit pas trop, mais qui a envie de connaître plus. Quelquefois, on a des couples, justement, qui épousent un musulman. Ou un, voilà, oui. Donc là, c'est plus compliqué. On s'en réfère à...
Non, mais il y en a même, il y en a un qui est baptisé, l'autre qui ne l'est pas.
Voilà.
Mais il y a la différence par rapport au... Alors, il y a moins de couples qui se préparent religieusement, enfin qui veulent se marier religieusement, mais c'est peut-être plus riche. C'est une véritable démarche de foi, à la limite.
Oui.
Ouais. Ils font confiance. Ils ont envie que ça dure et pour ça, ils sentent qu'ils ont besoin d'être un petit peu accompagnés. Voilà, quand ils se marient, ils n'ont pas l'idée que dans 5 ans, ils vont se séparer. Mais...
Tous les 5 ans, vous organisez des journées nationales extraordinaires du centre de préparation au mariage. Et cette année, on l'a dit, ça a lieu à Toulouse. C'est vendredi, samedi et dimanche. Ça consiste en quoi, concrètement?
Alors, pourquoi des journées nationales extraordinaires, donc tous les 5 ans? Parce que y a toutes les CPM du monde entier.
Du monde entier?
Du monde entier, qui se rassemblent. Bon, du monde entier, alors, n'exagérons pas, mais ça veut dire en particulier, là, nous allons accueillir des couples du Portugal...
Espagne,
D'Italie, d'Espagne et même de
Belgique.
D'outre-mer.
Voilà. Ah oui.
Voilà.
Le territoire d'outre-mer.
Donc. Pourquoi c'est important d'accueillir des couples d'autres pays pour confronter un petit peu vos visions
Absolument.
Du mariage?
C'est convivial, Absolument. C'est un côté aussi un peu famille. On est un mouvement.
Fédération.
Voilà, une fédération. Donc, y a une ambiance de connaissances entre nous et
de joie de se retrouver.
Ouais, voilà.
De joie de se retrouver, de partager et de se former, puisque pendant ces 3 jours, il va y avoir des intervenants qui vont nous faire réfléchir.
Sur un thème, thème cette année, c'est l'espérance. Mmh. Chaque année, ça change, mais voilà.
Oui, voilà. Et donc... quelle est la différence avec les journées nationales? Les journées nationales, donc, c'est bâti sur le même principe. On se retrouve, mais c'est entre nous, chaque année, pour un temps de retrouvailles, un temps de formation et une AG. Mmh. Une AG qui fait évidemment le bilan moral et financier de l'année. Enfin, voilà. Donc ça, et la journée nationale extraordinaire, c'est en plus avec les animateurs des autres pays.
Donc l'idée, c'est vraiment de se former et d'échanger autour de cette thématique.
Oui, absolument.
Voilà.
De toute façon, la formation, la formation, c'est extrêmement important, quoi. Je veux dire, il faut toujours, c'est une forme de remise en cause systématiquement
et ça dynamise. Ouais. Se former.
Surtout dans un contexte où le mariage est mis à mal, on peut le dire. Quels sont les dangers qui guettent? pour le mariage ?
Si on peut parler de danger. Je crois pas qu'il y ait
les obstacles, en tout cas.
Alors.
On a réfléchi. Moi,
je veux dire, il n'y a pas plus de danger qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. La seule différence, c'est que la grosse différence, c'est que la foi catholique est en perte de vitesse. La foi est en perte de vitesse. Et donc, les couples ne ressentent pas le besoin de se marier à l'église, voire de confier leur mariage à Dieu.
Mais bon, le thème étant l'espérance, moi je vois plein de signes parmi les fiancés. S'ils font la démarche pour se marier à l'église, c'est que voilà, il y a une vraie démarche d'adulte, un peu, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas 20 ans, ils en ont plutôt 30 ou 35. Et ils sont ouverts. Voilà, je trouve que les jeunes actuels sont ouverts. Ils sont pas. Alors, s'il y en a qui sont bloqués contre le mariage, ils vont pas venir nous retrouver. Mais on voit des signes. Des signes de renouveau aussi, moi, je trouve, dans l'Église et pour les fiancés. Je ne pense pas qu'ils aient une image...
Des signes d'authenticité, tu veux dire ?
Voilà, ouais.
Oui, comme vous le disiez, on sent qu'il y a une vraie démarche de foi, une vraie démarche d'Église d'aller se marier.
Voilà, même s'ils ne croient pas...
Alors qu'avant, c'était peut-être force... Ouais. C'était peut-être parce que c'était la grand-mère qui voulait,
bien
ou
sûr,
peut-être que c'était automatique
bien
parce
sûr,
que les parents l'avaient fait.
Sûr.
Aujourd'hui, c'est un vrai choix de la part des fiancés de se marier à l'église.
Il n'y a pas de doute que c'est un choix.
Voilà.
C'est un choix. Un choix réfléchi, comme dit Pascal. Ce sont des jeunes qui ont 30 ans, aux environs de 30 ans. C'est un choix réfléchi.
Donc,
mûri.
Voilà, et alors on veut les conduire vers la connaissance de Dieu, et parce que le mariage, c'est la rencontre avec Dieu et qu'on chemine après. Et on a pas mal d'outils pour les amener à... Je ne sais pas si on va en parler après.
Si, on va en parler.
Bon, voilà. Je
rajouterai simplement... c'est vrai qu'ils ont un petit peu peur quand leur prêtre leur dit « Bon, vous allez passer entre les mains, si je puis dire, de formateurs ». Ils se sont dit, oh là là, on va avoir des cours de catéchisme et tout ça.
Mmh. Ils sont très contents de voir que ce n'est pas,
la première soirée, c'est vraiment plutôt pour dialoguer, pour faire connaissance, pour dialoguer, pour échanger entre eux. Et quand on fait le bilan de la première soirée, ils disent, ça a été très agréable de parler entre nous et tout ça. Et du coup, ils se libèrent et ils sont... Ils parlent plus aisément et ils se livrent surtout beaucoup plus facilement.
Et alors, on fait un groupe WhatsApp tout de suite entre eux, ce qui fait qu'on communique par WhatsApp et ça crée vraiment un groupe. C'est-à-dire qu'à la fin des sessions, ils ont envie de se revoir si on faisait un café ensemble. Et là, on se dit, s'ils sont ensemble après s'être formés, s'être préparés, c'est riche, quoi, c'est dynamique. Voilà.
Quand je parlais des dangers qui guettaient le mariage tout à l'heure, je pensais à cette popularisation, hyper popularisation du Pax. Parce qu'on a l'impression que se marier, il y a trop de contraintes. Le Pax, c'est presque facile.
Oui.
Ça, c'est un danger aussi.
Un petit peu.
Un petit peu.
Parce que le mariage est exigeant. Donc, s'ils ont un tempérament où ils ont vraiment envie de construire leur mariage, ils vont... Mais c'est vrai qu'ils commencent par se paxer et puis, voilà... Une rencontre, et puis la maturité fait qu'ils se disent c'est pas suffisant, peut-être qu'on peut élever un petit peu notre recherche.
Oui, c'est intéressant parce que je veux dire, en effet, il y a pas mal, il y a peut-être, on le sait pas trop, mais enfin, il y a peut-être pas mal de couples qui commencent par le Pax et puis qui se disent, mais qui ressentent peu à peu ce besoin de confier leur union à Dieu. Et c'est une démarche qui est assez remarquable dans ce monde qui ne favorise pas la connaissance de Dieu et sa relation avec Dieu. Et bien, il y a pas mal de couples qui font cette démarche peu à peu. Ils disent c'est trop important, il faut vraiment, je dirais presque, quelqu'un de supérieur qui peut nous aider. Quoi.
Même chez les non-croyants. Ah bah, encore
une fois, quand les couples, dans les couples qui viennent nous voir,
il y en a un seul
qui est baptisé et donc ils ne vont jamais à l'église, hein, jamais, enfin, extrêmement rarement maintenant. Alors ça aussi c'est très important. L'église s'en émeut, l'église s'émeut beaucoup de ces demandes de mariage religieux avec des couples qui ne vont jamais à l'église.
Ouais.
Et ils réfléchissent pour savoir s'il faut continuer la préparation du mariage religieux telle qu'elle est, ou du moins telle que nous la sentons, c'est-à-dire les accueillir là où ils en sont et essayer de les faire découvrir la richesse du sacrement religieux et la richesse de l'Église, ou alors ils voudraient qu'on fasse du catéchuménat. C'est sérieux, c'est une demande du pape relayée par beaucoup d'évêques qui disent on peut pas brader, si je puis dire, le sacrement religieux comme ça. Il faut les préparer beaucoup plus sérieusement.
Ouais.
Alors, la réflexion est en cours.
Nous, on essaye d'agrandir les soirées, les sessions. On était au début à 3, maintenant on est à 5 ou 6. Et on essaye de les amener justement à l'église. Si je peux me raconter une petite anecdote, parce que ça m'a vraiment touchée. On leur propose d'aller à la messe ensemble. Après, le samedi, on passe une journée entière ensemble. Il y a une journée, 3 soirées. Je vous expliquerai les autres aussi. Et on les emmène à la messe. Ils ne disent pas non. On leur confie souvent une lecture. Et puis là, la dernière session qu'on a faite, le prêtre n'a pas pu venir pour leur parler du sacrement de 4 à 6 avant la messe. Et on s'est dit, avec l'autre couple, on va leur proposer de se retrouver un autre dimanche ensemble. Donc, on leur a dit, écoutez, dans 15 jours, on se retrouve à la messe. On a envoyé un WhatsApp. Mmh. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait la première communion dans la paroisse. Donc, on a repoussé d'une semaine. Et là, on leur a proposé aucune réponse sur WhatsApp en disant, on sera là, on ne sera pas là. Mmh. On avait préparé toute une cérémonie pour les fiancés, les présenter à la paroisse, la paroisse voit, faire les appeler par leur prénom, les faire sortir tous ensemble. Et là, miracle, on a été trouver le curé en disant, écoutez, on voulait faire une messe pour les fiancés, mais personne n'a répondu, je ne sais pas, on va prier quand même pour eux. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'église? Tous les fiancés
étaient tous là.
Donc, ils sont venus d'eux-mêmes à la messe. Et quand on est sortis, ils étaient trop contents de se retrouver. Et pour nous, enfin, pour moi, c'était vraiment un cadeau. Parce que depuis 15 ans, de pouvoir les amener, voilà, simplement par une suggestion, on peut se retrouver tous à la messe dimanche, voilà, dans 15 jours. Ils sont tous venus. Mmh. Et là, c'était un très beau cadeau. Parce qu'on se dit, s'ils acceptent de venir à la messe une fois, on pourra peut-être, dans le courant de l'année prochaine, leur dire, tiens, on se retrouve tous à la messe. Ils ne vont pas venir tous les dimanches, à mon avis, au début. Mais on en voit. Hein, on en voit quelques-uns
Nous les revoyons dans 15 jours, justement, pour faire le bilan de leur mariage. Et puis, justement, de leur dire, surtout, ne restez pas seuls. Essayez.
Venez, il y a de la place pour vous.
Voilà.
Voilà, on a été un peu long.
Non, pas de souci. Pour revenir sur ces journées exceptionnelles du centre de préparation au mariage, combien de personnes vous attendez?
Alors, 180 à peu près, entre 160 et 180. Et il y en a qui viennent avec des enfants. Donc, on a fait appel à des scouts qui vont prendre en charge une vingtaine d'enfants avec des activités aussi bien ludiques que des activités un peu plus spirituelles comme nous. Ils vont venir avec les adultes un petit moment à l'accueil au départ, pendant la messe aussi du samedi soir. Et voilà, 160 avec toute la structure de ce village filoté qui est vraiment très accueillant au niveau des chambres, des repas, de tout.
Je rajouterai un petit bémol, nul n'est prophète en son pays. Eh bien, ceux qui manquent à l'appel, c'est plutôt les Toulousains. Pourquoi? Je ne sais pas trop.
La question mérite d'être posée en tout cas. Est-ce que, on l'a dit, il y a des conférences qui seront organisées, des activités? Est-ce que déjà ces conférences, elles sont ouvertes à tout le monde ou c'est juste réservé aux membres du CPM?
Non, voilà. Alors, non, c'est réservé aux membres du CPM c'est réservé à ceux qui se sont inscrits.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire aujourd'hui ou c'est un peu trop tard?
C'est fini, là, depuis quelques jours.
C'est important de cadrer.
En fait, oui, parce que comme ce sont des journées extraordinaire et qu'il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur, on est obligé de structurer ça.
Pour les
et
repas,
donc, il y a des repas, et oui, des repas payants, bien évidemment. Et donc, on a fait un package complet de journées de formation, quoi, en fait, voilà. Mmh. Et donc, c'est trop tard maintenant pour s'inscrire.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On déroulera ensuite le programme de ces journées extraordinaires du Centre de préparation au mariage. Je rappelle les dates 11, 12 et 13 novembre. On écoute « Aimer, c'est tout donner » de Jean-Baptiste Jonchet.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Bertrand et Pascal Sarrazin du Centre de préparation au mariage de Toulouse, du diocèse de Toulouse, de Haute-Garonne tout simplement, pour aborder ces journées extraordinaires du Centre de préparation au mariage qui auront lieu vendredi, samedi et dimanche à l'espace Philothée. On a débriefé un petit peu et on a présenté de manière générale ces journées. Est-ce qu'on peut se pencher déjà sur les conférences? Il y en a quatre différentes. Est-ce que vous pouvez nous les citer et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de ces conférences?
Bon. Bien, alors, à vrai dire, ce n'est pas nous qui avons participé au choix. C'est le bureau national. Et au bureau national, il y a une représentante de Toulouse. C'est Aude Payou, et qui est philosophe, et c'est peut-être ça qui explique qu'il y ait déjà comme premier intervenant un philosophe, Jean-François Noël.
Non, c'est un psychanalyste.
Ah, Jean-François Noël est psychanalyste.
Oui. Et
on peut citer éventuellement sa conférence « Comment l'idéal, moteur de l'engagement, est-il éprouvé au cours de la relation ?» Vaste question, ça.
Vaste question.
Alors, qu'est-ce qu'on doit y comprendre derrière aussi?
C'est difficile de répondre puisque nous n'avons pas eu encore la formation. Simplement, alors, qu'est-ce que je dirais, moi, l'idéal.
Qu'est-ce qu'on appelle l'idéal?
Voilà, je veux dire, je pense que dans notre civilisation, la représentation d'un couple, on présente ça comme un idéal de bonheur, si je puis dire.
C'est vrai.
D'ailleurs, on peut le dire quand même, un couple, c'est presque étonnant que ça puisse marcher, parce que je veux dire, entre un homme et une femme, c'est pas facile, on est vraiment très différents. Et en même temps, c'est extraordinaire, la construction d'un couple, c'est quand même quelque chose de formidable, et je pense que c'est vraiment un idéal à atteindre. Et je veux dire, c'est presque comme la recherche de Dieu, quoi. C'est une recherche permanente. Voilà ce que je veux dire.
Voilà. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « Le désir inconscient de Dieu ». Donc, je n'ai pas lu le livre, mais je pense que à l'intérieur de chaque homme, il y a un désir, justement, et voilà, il va nous parler peut-être de ce désir inconscient.
En tout cas, de cet couples. Idéal voilà. Qu'est le couple, le mariage et la famille dans une autre dimension, qui peut être effrité au fur et à mesure du temps et du
par
quotidien.
Par le quotidien.
Oui, par le quotidien. Surtout.
Absolument. Voilà. Absolument.
La deuxième conférence, Jacques Ricot.
Lui est philosophe.
S'engager pour la vie, est-ce bien raisonnable?
La réponse est oui. Oui. D'ailleurs, quand vous posez les jeunes couples que nous accueillons, on parle évidemment d'indissolubilité. Et donc on leur dit, mais vous vous rendez compte, vous vous engagez pour la vie, etc. Ça leur pose pas de soucis. Et c'est en ça aussi qu'on voit leur idéal. Leur idéal de construire leur couple, quoi. Et c'est vraiment quelque chose. Donc, est-ce bien raisonnable?
Il est forcément raisonnable d'associer ça à la raison.
Oui, exactement. Exactement. Oui. C'est pas raisonnable, justement.
Ce n'est pas raisonnable, mais l'espérance, voilà. En se mariant, on espère que ça va durer. Je pense que le sacrement, on espère. Voilà, c'est vraiment le thème du week-end.
Même...
Le mariage n'est pas facile, mais on a envie que ça dure.
On a la volonté que ça dure.
Voilà.
Il faut la volonté que ça dure.
S'il y a la volonté et le désir...
Et l'espérance.
Tout va. Voilà. L'espérance, tout va.
Exactement, voilà.
Exactement, je pense.
Est-ce que les jeunes couples, justement, on parlait d'indissolubilité tout à l'heure, sont presque dans un idéal au début, en se disant tout est beau, tout est rose, et que derrière, ils ne mesurent pas forcément que c'est pour toute la vie ou que le quotidien va venir effriter leur relation? C'est ça, souvent?
On travaille là-dessus.
Tous les couples qui se marient.
Oui, pas uniquement les jeunes.
Bah oui, c'est le coup de foudre, c'est l'amour fou. Donc c'est normal, tout ça. Et je veux dire,
on va pas dire qu'est-ce qui
va nous tomber sur la tête. Non, bien sûr que non. Ils foncent, et heureusement, c'est ça qui est formidable, ils foncent. Et puis, voilà. Donc, justement, les faire réfléchir au sacrement du mariage, c'est ça aussi, sans leur dire, attention, hein, ça va être difficile, hein, accrochez-vous à la table. Non, ça, c'est pas non. ça qu'on veut leur faire dire, mais on veut leur dire, faites-vous aider, quoi.
On leur dit que c'est un chemin qui se construit. Ils sont sur un chemin et, voilà, ça va se construire. Il faut savoir... trouver à la limite des pistes, soit de mouvement, soit de, voilà, de petit à petit. Et vraiment, c'est un chemin. Donc, nous, on respecte leur chemin. Ils arrivent plus ou moins baptisés, plus ou moins catéchisés, mais ils sont sur un chemin. Et là, ils vont découvrir des merveilles grâce à l'Esprit Saint, grâce au sacrement. Je pense que voilà, c'est notre but, c'est vraiment de leur dire voilà, faites confiance aussi à l'Esprit Saint.
La troisième conférence par Antoine Guggenheim.
Ah,
alors, qui est Antoine Guggenheim ? C'est un théologien.
Voilà.
Construire l'espérance, quelques propositions inspirées de l'expérience des couples interreligieux. Les couples interreligieux, l'espérance, c'est le travail quotidien, j'imagine.
Oui. Alors, ça serait extraordinaire comme conférence, parce que visiblement, elle a beaucoup d'expérience. Nous avons accueilli... Alors, une fois, on a eu un couple catholique, un couple protestant, un couple où lui était catholique et elle protestant, ou l'inverse, et c'était très riche.
Mm.
On a eu aussi un couple avec un... Lui était islamiste, enfin...
Musulman, plutôt.
Et plutôt, exactement, plutôt musulman, et elle catholique. Là... c'est difficile, c'est pas facile du tout même.
Parce que c'est deux religions qui sont très opposées.
Voilà. Ah. C'est le prêtre qui va décider s'il pense que ce mariage va être possible. Parce qu'il arrive rarement, mais quelquefois les prêtres disent « Là, vous n'êtes pas prêts, là, il manque... » Il faut quand même que l'Église sache discerner vraiment... Donc là, nous, on n'est pas formés, mais on a eu un accueil rencontre, là, un des journaux, sur justement les mariages islamo-chrétiens, qui était très riche pour nous aider à comment aborder ces couples-là.
Là, il se demande beaucoup de tolérance, beaucoup de tolérance.
Il ne faut pas improviser, il faut avoir par derrière. Voilà. Et du coup, grâce à ces revues, on a sorti le numéro sur le mariage islamo-chrétien et on a trouvé des tas d'idées pour... dialoguer avec ces couples-là.
Mais oui, je veux dire, ça demande beaucoup de tolérance, beaucoup d'attention. et le parcours que doit faire le couple lui-même pour se rencontrer n'est pas facile. Parce que, en particulier, il y a l'éducation des enfants. L'éducation des enfants dans la foi catholique, dans la foi...
Ils s'engagent, oui.
De l'islam, c'est normalement... quand ils se marient religieusement
à l'église,
c'est pour les élever dans la foi catholique. Si c'est l'homme qui est musulman, il va avoir du mal à accepter ça. Enfin, des choses aussi simples que ça. Enfin, aussi, ou même, c'est pas simple du tout, d'ailleurs, aussi difficile. Voilà.
Vous apprenez aussi beaucoup de ces couples interreligieux.
On n'en a pas eu beaucoup, mais on apprend, on essaye de les comprendre.
C'est pas évident quand même, parce que les enjeux sont très différents.
Et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir après, donc on fait confiance. Je crois que voilà, la prière nous aide quand même avec eux.
Déjà, un couple catholique, c'est pas facile déjà de construire ce couple dans la foi. Quand c'est deux croyances différentes, c'est encore plus compliqué. Quoi.
Voilà. On verra ce qu'il nous dit.
Et la dernière conférence par Oran de Motor, Libérer en nous les énergies de l'espérance.
Ah.
Alors déjà, qui est Oran de Motor et qu'est-ce qu'elle entend par libérer les énergies
de
l'espérance ?
Oran de Motor, elle a fait de la théologie et elle était surtout, entre les années 2013 et 2020, elle était à la conférence des évêques de France. Et le CPM s'est beaucoup appuyé sur ses
conseils.
Ses conseils
En particulier,
elle était venue intervenir dans une assemblée générale qu'on a eue à Paris.
Elle avait dit très clairement que le CPM n'était pas bien compris par les évêques.
Donc,
Et donc, elle a dit, il faut structurer Beaucoup plus.
Donc, on a fait une charte et des essentiels que vous avez peut-être déjà passés, qui montrent bien quels sont
la
les...
La volonté de notre... du CPM. Quel est le...
Donc là, elle nous a bien aidés.
Donc, elle nous a beaucoup
aidés.
Donc,
elle est gentille de venir jusqu'à Toulouse. Oui. Ouais.
Et donc, alors, libérer en nous les énergies de l'espérance, c'est beau comme titre.
De quelle espérance on parle? L'espérance que le mariage dure, oui. C'est ça?
En partie, il y a ça.
Moi, je dirais deux choses. Notre foi, on vient de vivre la Toussaint, qui est une formidable espérance, la Toussaint. On croit en la résurrection. Ce qui est quand même extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de religions qui nous proposent ça. Donc, c'est une espérance formidable. Et ensuite, c'est l'espérance du couple. Le couple en lui-même, c'est quelque chose de dynamique. On a dit c'est une force extraordinaire, un dynamisme impressionnant, un couple. Et je pense que l'espérance du couple, ça dégage une énergie, voilà, une énergie très belle et que à la limite tout le monde devrait partir dans le sillage du couple, quoi, et s'engager dans le sillage du couple. Et je pense que énergie de l'espérance, c'est un peu ça que ça veut dire. Je veux dire. C'est le couple, un couple solide, c'est le couple qui montre l'exemple, qui prend la tête.
Il va témoigner peut-être après aussi. Voilà.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Ensuite, on parlera justement du thème, le mariage source d'espérance, dans la troisième partie de l'émission. D'accord. Juste avant, on écoute Je veux t'adorer d'Eddie Babel.
Je vis une belle histoire d'amour qui commence avant même que je fus révélé. La plus grande des histoires d'amour qui dure pour toujours. Sur toi je puis m'appuyer sans désespoir dans ton amour. Jésus, je veux te louer. Je veux t'adorer. Quand par ta main puissante tu me places là où je dois être, c'est pour que s'accomplisse mes rêves. Tu connais les yeux que tu as fait pour moi. Et quand par mes épreuves et maladresse je tombe et tu me redresses, je sais que tu me lâcheras jamais les mains. Je veux t'adorer. Toute ma te louer. Oh Jésus, je veux t'adorer.
Radio Présence à Figeac 97.7. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Bertrand et Pascal Sarrazin du Centre de préparation au mariage au diocèse de Toulouse pour aborder ces journées extraordinaires du Centre de préparation au mariage qui, je le rappelle, auront lieu à l'espace Philothée vendredi, samedi et dimanche. Pour terminer cette émission, vous voyez, il nous reste 5-7 minutes, j'aimerais qu'on revienne de manière plus précise sur cette thématique. Le mariage, source d'espérance. Pourquoi aujourd'hui, il faut placer notre espérance dans le mariage ?
Moi, je trouve que c'est bienvenu dans ce monde. Alors, on ne peut pas dire qu'il est plus terrible que les années précédentes ou les siècles précédents. Enfin, je veux dire, mais il y a quand même beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse véhiculée au passage par tout ce qui est médias cette mondialisation.
Les réseaux sociaux aussi.
Tout ça. Donc, il y a beaucoup d'angoisse. Et donc, je trouve que ce mot espérance est vraiment bienvenu en ce moment.
Oui, pour dire que le mariage est vraiment un chemin qui se construit. On ne le reçoit pas un jour. Et voilà, leur donner l'espoir, l'espérance de cheminer toute leur vie ensemble.
Le goût de prendre ce chemin et d'aller de l'avant.
Voilà. J'aimerais qu'on aborde aussi la question du courage autour du mariage. Il faut être courageux pour se marier.
Je pense que c'est exactement comme partir en montagne, par exemple.
Donc c'est une aventure.
C'est une aventure, c'est le goût de se dépasser pour voir des choses merveilleuses. La montagne, c'est exactement ça, et c'est prendre son bâton de pèlerin, où nous on parlait de chemin, là c'est la même chose, on prend son bâton et on grimpe pour aller jusqu'au sommet. Le mariage, c'est ça en fait.
Oui, et puis ils vont avoir des enfants, alors il y a toute la dimension aussi de l'éducation des enfants, Parce que, comme vous le disiez, quelquefois, les couples veulent même pas d'enfants en se mariant. Ça, c'est... Voilà. La fécondité d'un couple, la première fécondité, c'est d'avoir des enfants.
C'est une des composantes du mariage, justement, j'allais l'aborder. Voilà. Il y a beaucoup de couples qui veulent pas d'enfants pour des raisons, certaines fois, écologiques. On entend régulièrement ces derniers temps. Ça met à mal aussi un des quatre piliers du mariage, qui est la fécondité.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais on peut être fécond. Il y a des couples qui ne peuvent pas en avoir. Et on leur montre la fécondité. Elle peut être dans les engagements. On peut être fécond autrement si on ne peut pas. Mais sinon, le but du mariage, c'est quand même d'avoir des enfants.
Mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle à Pau, nous avions un couple d'amis avec qui vraiment on s'entendait très bien. Et ils avaient un enfant. Et mon copain m'expliquait, tu sais, dans ce monde, il y a 40 ans hein, quand même, dans ce monde, c'est de la folie de mettre des enfants au monde. Non, je n'ai vraiment pas le courage ou je n'ose pas proposer ce monde à mes enfants. Donc, au fond, je veux dire, d'année en année, les couples se posent la question de savoir s'il faut vraiment offrir cette vie. Et pourtant... C'est quand même magnifique, la vie. C'est... Bien sûr que, d'abord, il y a des gens qui ont des vies très difficiles. Il se trouve qu'en France, quand même, c'est relativement plus facile. Et je pense quand même qu'on peut donner la vie, vraiment. C'est un cadeau qu'on fait, normalement.
Voilà, moi je verrais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, toute la dimension aussi du pardon dans un couple. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de tentations de tout genre et que construire un couple, si on n'a pas la dimension du pardon régulièrement, c'est des sources de... Un petit peu, alors les non-dits et tout ça, mais les aider à se pardonner, même pour des petites choses, pour...
50 ans après, je ne suis pas certain que ma femme ait pardonné le fait que j'ai jeté toutes les lettres qu'elle m'écrivait quand nous étions fiancés.
Oui, mais quelle erreur vous avez fait,
bien sûr, et bien sûr. Et c'est là où on revient d'ailleurs à notre discussion du départ. Entre un homme et une femme,
oui,
l'homme et la femme sont extrêmement différents. Quoi. Mmh. Oui, et c'est vrai que moi, j'ai expliqué tranquillement, ben, je les ai jetés puisque nous allons nous marier et nous serons toujours ensemble. Et elle, qui s'était investie dans ses lettres,
d'ailleurs, on l'écrivait,
a trouvé ça, mais grossier.
Mais sachez que je garde celle que ma femme m'a amoureusement écrite et je ne les déchirerai jamais. Je le dis là, c'est enregistré. Si je le fais dans 50 ans, elle pourra me le ressortir.
Vous écrivez encore à votre époque, c'est beau.
Oui, bah, c'est elle qui le fait. Alors moi, je lui ai promis que je lui écrirai un jour, mais je ne l'ai jamais fait, mais j'essaierai de tenir parole. En tout cas, toutes ces questions de pardon, en tout cas pour revenir sur l'émission de pardon des enfants, c'est des choses que vous aborderez durant ces journées pour adapter, bien sûr, votre discours.
Bien sûr.
Tout à fait.
Bon, on arrive à la fin de cette émission. Merci.
Déjà ?
Bah oui, je vous ai dit, ça passe très rapidement. Merci en tout cas Bertrand et Pascal Sarrazin d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nous parler de ces journées nationales extraordinaires du Centre de préparation au mariage. Je rappelle, 11, 12 et 13 novembre. Malheureusement, on ne peut plus s'inscrire, mais en tout cas, j'espère que cette émission vous a permis d'avoir des pistes de réflexion, vous
Merci.
Qui êtes en couple.
Merci de nous avoir reçus.
Avec grand plaisir. Merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et ce sera une émission cinéma avec Louis-Marie Solaire et Paul Dima. Nous analyserons les films suivants, La Conspiration du Caire et La Prière. N'hésitez pas à les regarder pour pouvoir suivre cette émission. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.